Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, je reçois dans Cap à Cap deux invités, les deux auteurs d'un livre publié aux éditions Duno et intitulé « Entrepreneur, choisissez le bon statut », sous-titré « Le petit guide exhaustif de tous les statuts juridiques ». Donc, vous avez compris que nous allons parler de droit. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Bonjour Guy Dessus.
Bonjour Jacques Lavergne.
Bonjour Denis Vidal.
Bonjour.
Alors, vous êtes mis à deux pour écrire un livre. Bon, quand on sait le contenu et la complexité de ces questions, on comprend peut-être pourquoi, mais vous allez nous l'expliquer. Mais d'abord, on va essayer de voir d'où vous venez. Est-ce que vous étiez légitime à aborder cette question? Denis Vidal, je commence par vous. IEP Paris. Normalement, ça conduit à l'ENA, mais vous avez fait HEC aussi avant, après peut-être?
Après, exactement, oui.
Après, vous avez une carrière bien remplie, hein, chargé d'études fiscales, alors je ne sais pas ce que c'est, mais vous nous le direz. Vous avez travaillé chez Total.
Oui, exactement.
Grand pollueur, si l'année. Et puis ensuite, vous avez été dans un certain nombre d'entreprises, un peu dans le Gers, dans le Lot. Vous avez voyagé. Pourquoi chez Total, d'ailleurs?
Ah bah parce que c'était à l'époque plaisant, bien payé.
Oui, ah bah c'est déjà une bonne motivation. Et qui faisiez-vous?
J'étais à la direction des relations extérieures et ensuite à la direction approvisionnement. J'étais cadre. À l'époque, Total embauchait des jeunes diplômés pleins d'avenir et les mettait dans une espèce de cocon où ils n'avaient rien à faire pendant quelques années avant qu'on leur trouve une affectation.
Ah, c'était bien, vous étiez bien payé pour rien faire.
Exactement. Mais je m'ennuyais beaucoup, c'est ça le problème. Et donc du coup, j'ai profité un peu du fait que j'avais beaucoup de temps libre pour faire autre chose, par exemple, pour créer une revue qui s'occupait de donner des conseils de gestion aux patrons de PME. Déjà à l'époque, parce que dans mon premier boulot, qui était donc chargé d'études fiscales à la Chambre de commerce de Paris, j'avais une activité conseil gratuit. Donc je sortais de mes diplômes, j'étais complètement nul dans tous les domaines.
C'est pour ça que le conseil était gratuit?
Oui, non justement. Il y avait beaucoup de... Tous les patrons de PME de Paris, la petite couronne, pouvaient venir gratuitement exposer leurs problèmes fiscaux et je leur répondais dans la mesure du possible. Et donc, j'étais rentré dans ce domaine parce que je savais que j'avais vraiment en tête de créer des entreprises. C'était mon projet à sortir des écoles. Mais je savais que j'étais pas encore assez prêt pour ça. Et donc, j'avais envie de développer mes connaissances en fiscalité. Et donc, j'ai pris ce job-là. Et il se trouve que, effectivement, dès que je me suis trouvé face à des gens qui étaient quinquagénaires, quadragénaires, qui auraient pu être mon père, j'avais 25 ans à l'époque, qui me regardait en disant il y a un jeune couillon qui est un polyvalent de l'administration fiscale qui me cherche des poux parce que ceci, parce que cela, et qu'il fallait que je résolve la question, le problème, eh bien, j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne vite les choses pratiques concernant la fiscalité. Et donc, pendant un an, j'ai fait ce métier-là, et au bout de... Rapidement, j'ai été assez efficace, mais je me rendais compte que la plupart des patrons de PME, de toutes les entreprises, ne savaient pas du tout ils étaient bons dans leur spécialité.
Bah, c'est normal. Hein.
Ils avaient le bagage technique correspondant, mais ils n'étaient pas du tout compétents dans tout ce qui était administration, gestion, finance, marketing même, technique commerciale. Mmh. Et alors, ne parlons pas de tout ce qui était droit, fiscalité, social, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, donc j'ai fait ce boulot-là. Et au bout d'un certain temps, lorsque je suis sorti, que j'avais tellement de temps à perdre, que je m'ennuyais tellement lorsque j'étais à la Compagnie française des pétroles, j'ai fait donc une petite revue qui était composée de petits articles. J'avais donc rassemblé une vingtaine de personnes autour de moi. Et on faisait une revue bimestrielle, tous les deux mois. Et on envoyait donc, par correspondance, à des abonnés, des petits articles de 4 pages maximum en langage le plus possible au ras des pâquerettes sur des problèmes, droit social, droit fiscal, marketing, comment gagner des clients, finances, etc. Voilà.
Et Guy Dessus, alors est-ce qu'on dit Dessus ou Guy Dessus, puisqu'il y a un T à la fin?
Alors, bon, comme on est, moi je suis toulousain, donc je prononce le T forcément.
Le T, oui. Ouais, alors, vous dites Guy Dessus, con, donc non.
Oui, oui, mais avec la virgule entre Dessus et con.
Bien évidemment. Alors Guy Dessus, vous êtes expert comptable. Grande spécialiste de fiscalité, parce que je sais que vous avez beaucoup écrit sur la fiscalité, sur le droit, sur l'informatique. Donc vous êtes un expert comptable qui pense.
Alors, est-ce que je suis un expert comptable qui pense? Je ne sais pas.
Vous avez quand même écrit beaucoup de livres.
Oui.
Très curieusement, juridique. On aurait peut-être plus vu un juriste pur faire ce genre de choses, mais vous l'avez fait très bien.
Je pense que le problème du juriste pur, c'est qu'il est un peu déconnecté de la réalité.
C'est pas gentil pour les parfois, avocats.
Zut, ça y est, d'entrée, je me fais quelques ennemis. Et je pense qu'en fait, les experts comptables sont des praticiens. C'est vraiment ceux qui sont le plus en contact avec leurs clients, avec les difficultés quotidiennes du client. Nous voyons nos clients de manière très régulière. Et c'est vrai que il y a la possibilité de faire des écrits qui soient peut-être plus proches de ce que peuvent comprendre les chefs d'entreprise dans leur quotidien.
On a le temps de faire des livres un peu savants, si vous me passez l'épithète, quand on a une clientèle, un cabinet, des clients.
On a toujours le temps de tout. Après, c'est une question combien d'heures on dort par nuit.
Voilà. Donc, vous dormez peu?
Alors, oui. Et puis, c'est une question d'organisation, de volonté, d'efficacité. Donc, je pense qu'on ne vit qu'une fois. En plus,
l'horloge tourne. On ne le sait pas. Personne ne le sait, d'ailleurs.
Donc, je vais partir de ce principe de base.
Oui, qui est le principe de précaution,
on va dire. Voilà,
mais peut-être que dans une autre vie, vous allez pouvoir.
Peut-être, mais l'horloge tournant, c'est vrai qu'il faut essayer de faire le maximum de choses pour ne pas avoir de regrets. Si un jour, on peut réfléchir sur son lit de mort, si on a le temps de réfléchir à...
Je ne sais pas si sur votre lit de mort, vous réfléchirez aux structures juridiques des entreprises.
Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. En me disant, je n'ai pas expliqué les choses de manière assez pratique ou de manière assez systémique aussi.
Alors comment vous êtes rencontrés tous les deux? Parce que vous êtes alliés pour ce livre chez Duno, qui est d'éditeur spécialisé, lui, hein, en matière juridique. Je crois que je connais mal Duno, d'ailleurs.
Oui, oui, c'est en fait l'éditeur d'entreprise, c'est le plus gros éditeur. Ben, c'est une filiale d'Hachette.
Oui, oui, bon, voilà.
Et donc...
Vous êtes rencontrés comment?
Il y a 30 ans.
Ah, bon, vous avez eu le temps de mûrir le livre, alors.
Il y a 30 ans, j'étais donc dans le Sud-Ouest. Et j'avais créé une structure, l'association 905, qui s'appelait la Renaissance économique du monde rural, le REMOR.
Oula, dites-moi, la Renaissance économique du monde rural.
Absolument.
Quel programme ?
L'association 905, le monde rural et le REMOR du monde urbain. C'était la baseline, en quelque sorte. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider un peu dans ce domaine. Et un concours de circonstances a fait que j'ai rencontré Guy Dessus. Et en fait... Ce que j'ai partagé tout de suite avec Guy Dessus, que j'ai senti chez lui, c'était un peu la même chose que pour moi, c'est-à-dire que nous avons une grande chance, l'un et l'autre, d'avoir fait des études, que nos parents nous aient payé des études supérieures. Et c'était important de partager ce que nous savions. Et donc, en fait, déjà Guy était pas mal dans l'explication, en quelque sorte, la pédagogie par rapport à tous les gens avec qui il travaillait. Et moi, depuis le début, ça m'intéressait aussi de partager la boîte à outils de tout ce qui était entreprise, gestion d'entreprise, développement d'entreprise, etc. Et donc, on s'est entendu sur ce thème-là déjà à l'époque, très rapidement, je dirais.
Donc, ça a fonctionné, Guy Dessus, immédiatement, et vous êtes dit, on va écrire ensemble.
Oui, alors, ça n'a pas été aussi simple que ça. Non, nous avons partagé aussi pas mal de bouteilles de vin rouge.
Ah, mais ça, il faut écrire, oui.
À l'époque et aujourd'hui encore, du Sud-Ouest, et maintenant bio, si possible. Et effectivement, ça nous a permis de mûrir notre réflexion. Donc, chacun écrivait de son côté, puisque Denis a sorti un livre qui avait eu pas mal de succès, le Vador.
Il s'appelle
Le Vador, comme dans la guerre des étoiles.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui.
C'est comme le Stratégor ou le Mercator et choses comme ça. C'est-à-dire que Vador, ça veut dire VAD, vente à distance.
Ah oui, il faut traduire, hein, parce que je ne l'aurais pas deviné.
Donc c'est la Bible, enfin ça voulait être la Bible de la vente à distance.
D'accord.
Voilà, et moi, de mon côté, ben, j'écrivais des bouquins sur l'auto-entreprise, sur l'artiste entrepreneur, la fiscalité des associations, toujours très axé culture, puisque c'est quand même ce qui me fait vibrer.
Oui, c'est ce qui vous intéresse le plus, parce qu'après avoir eu, après avoir eu un cabinet très, très classique, hein, avec votre épouse même, je crois, qui vous partagez, vous êtes partis tous les deux plutôt vers la culture. Alors elle, la culture active. J'espère un jour pouvoir la recevoir ici. Et vous, c'était la culture comptable un peu. Enfin, alors, ou plutôt la comptabilité appliquée à la culture.
Oui, alors effectivement, ma compagne qui était mon associée à l'époque est maintenant intermittente du spectacle.
Oui, c'est une aventure assez intéressante, voilà, d'ailleurs, donc, un parcours intéressant.
Voilà, la conteuse Kika Faré qui joue dans énormément de médiathèques sur la région. Et effectivement,
qui était expert comptable.
Et qui était mon associé dans le cabinet expertise comptable. Et exactement.
Ça, c'est curieux comme parcours, parce que c'est vrai qu'on n'associe pas forcément l'artiste et l'expert comptable. L'expert comptable, souvent, ils ne sont pas vraiment, vraiment artistes. Elle s'était peut-être un peu trompée au départ.
Alors, elle était effectivement beaucoup plus artiste déjà à l'époque que.
Voilà. Le chiffre ne prédestine pas quand même à l'évasion poétique.
Alors, ça mériterait par contre une vaste discussion.
Que vous pouvez amorcer.
Est-ce que, d'ailleurs, on parle de journal comptable, on parle de grand livre comptable.
Oui,
donc, je pense qu'en fait, dans la comptabilité, on raconte la vie de l'entreprise. Nous sommes les auteurs de la vie de l'entreprise. Et donc, moi, je me place souvent comme un compteur. Compteur, C-O-N-T-E-U-R. Mmh, oui. Quand je fais mon métier, et je pense qu'il y a une proximité certaine avec l'auteur de livres.
C'est intéressant. Donc, je n'avais jamais imaginé ça. Pourtant, j'ai beaucoup fréquenté les experts comptables, mais je ne les avais jamais vus comme des rédacteurs de la vie de l'entreprise.
Juste pour finir sur le sujet, parce que ça nous éloigne un peu de notre propos, peut-être, c'est que la comptabilité est juste un langage. Et comme j'apprends à parler espagnol, anglais ou allemand, avec l'accent toulousain, parler anglais, c'est quand même très compliqué. Le langage comptable s'apprend comme on apprend l'anglais. Et donc, une fois que l'on maîtrise ce langage, et c'est nettement plus facile, je me répète, que de maîtriser l'anglais, eh bien, on exprime et on raconte la vie de l'entreprise.
Il n'y a déjà pas la barrière comptable de l'accent avec les chiffres.
Effectivement, et ça, c'est quand même c'est particulièrement intéressant de ne pas avoir cette barrière de l'accent. Et pour finir donc sur la rencontre avec Denis, donc, le projet a mûri peu à peu, chacun écrivait de son côté. Et puis, devant quelques bouteilles de rouge ou quelques verres de rouge, on va dire quelques verres, avec modération, bien entendu.
Oui, bien sûr.
Vous en doutez, mon cher Jacques. Nous avons décidé d'entamer une collaboration. Donc, nous avons fait un premier bouquin qui s'appelait « Les statuts alternatifs », plus ou moins confidentiel, mais qui a été remarqué par Duno et qui a fait que nous sommes maintenant chez Duno pour cette...
Vous êtes dans l'écurie Duno, donc. Alors, comment on écrit à quatre mains? Parce que c'est quand même pas simple. Vous avez des sensibilités certainement différentes. Vous venez d'horizons différents, de formations différentes. Comment on arrive à collaborer et jusqu'à produire un texte? En plus, là, on est sur des choses extrêmement techniques. Donc, comment on arrive à travailler ensemble?
Je dirais que c'est Guy qui fait toute la partie technique, c'est-à-dire 90% à peu près du livre, et je fais la mise en musique, en quelque sorte.
D'accord.
C'est-à-dire que je rédige, j'essaye de, comme ça fait pas mal d'années que je rédige des tas de choses sur le plan publicitaire ou des bouquins ou des choses qui se veulent pédagogiques et simples, du coup, je l'accompagne et j'essaye de mettre un peu dans des termes simple ce qu'il raconte, et des termes, enfin, avec des phrases courtes, avec j'essaye de le rendre compréhensible par notre public, qui est la personne.
Vous êtes donc le vulgarisateur de l'équipe.
Oui,
c'est ça. Qui mettait en musique de manière à ce que ce soit compréhensible par à peu près tout le monde.
Exactement.
Et donc ça vous va bien, Guy de Sud, ce travail-là, de reprendre votre travail et de le rendre accessible?
Ça me va très bien.
Vous ne trouvez pas qu'il en fait, peut-être il édulcore un peu trop, ou il enlève des aspects techniques que vous auriez aimé voir
Non, il ne m'a jamais censuré jusqu'à présent. Il adoucit mon propos, il l'enjolive, il met quelques exemples pratiques tirés de son expérience. Voilà, en tout cas, les plus racontables, on va dire, sont présentés dans le bouquin.
Oui.
Donc, vous avez collaboré harmonieusement. Ça a mis combien de temps C'est plus long, peut-être, d'écrire à deux que d'écrire seul?
Non, c'est assez rapide. Je pense que nous maîtrisons tous les deux, en toute modestie, nous maîtrisons nos sujets. Donc, moi, j'ai pas l'impression d'y passer beaucoup de temps.
En fait, Guy écrit depuis longtemps déjà, il a pas mal publié de bouquins, comme vous l'avez dit, et à chaque fois, il demande la relecture ou que quelqu'un, comme moi par exemple, regarde ce qu'il a fait, éventuellement lui fasse des corrections, etc. Donc il est très demandeur dans ce domaine.
Bon, mais écoutez, nous allons aborder le fond de ce livre, parce qu'on est là quand même pour ça, mais avant, on va faire une petite pause musicale. Alors, vous avez choisi, je vous ai demandé, comme d'habitude dans cette émission, à chacun d'opérer un choix musical, et vous, Denis Vidal, vous m'avez dit, finalement, j'ai un peu la liberté du choix, vous m'avez dit tout Brassens. Alors, pourquoi Brassens?
Parce que je pense que Brassens est le plus grand philosophe du XXe siècle.
Ah, rien que ça?
Oui, en plus d'un musicien et d'un conteur d'histoire.
C'est pas faux. Donc nous avons choisi, avec Anne-Marie qui était en studio, nous avons choisi d'écouter Les Passantes.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivant des heures grises près d'un être trop différent vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Voilà, on a parlé de femmes, hein, c'est un plateau d'hommes, mais grâce à Brassens et aux passantes, on a parlé de femmes. Alors revenons vers ce qui nous réunit aujourd'hui, vers ce livre écrit à quatre mains, « Entrepreneur, choisissez le bon statut », le petit guide exhaustif de tous les statuts juridiques. Je crois qu'au dos de votre livre, on peut lire ça. Vous avez envie d'indépendance, de vous mettre à votre compte, de créer votre entreprise, mais vous pensez que ça va être trop compliqué. Détrompez-vous, et je ne lis pas la suite, mais ça donne le ton. À qui s'adresse ce livre, finalement, Denis Vidal ?
À tout le monde. Vraiment, à tout le monde. Et c'est ça l'intéressant. C'est-à-dire que... il y a 7 ou 8 ans à peu près, j'étais passé chez Erol à Boisse-Germain à Paris, la grande librairie de juridique justement, oui, et d'entreprise. Et il y avait un mur complet, un vaste mur de bouquins sur la création d'entreprise. Et j'ai commencé à le regarder, j'ai passé quelques heures, et à regarder les bouquins, je me suis rendu compte que les livres traitant la création d'entreprise étaient des livres qui étaient à peu près, on aurait dit qu'ils se copiaient les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils étaient sur les statuts classiques, les sociétés ARL, la SAS, la SA, l'entreprise individuelle, et qu'ils allaient très rarement voir les statuts qui étaient un peu plus faciles. Alors, à l'époque, il y avait depuis 2009 l'auto-entreprise, par exemple, qui a eu du mal à être... on en parlait très peu. Et puis, il y avait des entreprises qui ont beaucoup de prestige, comme la coopérative, la SCOP.
Oui, enfin, ça, on en voit quand même pas trop. Non. C'est un secteur extrêmement délicat.
Oui, oui, mais ça correspond à une volonté, un désir des gens.
Tout à fait.
Et je me suis dit quand même, c'est un peu triste lorsque quelqu'un a envie de créer un business, une entreprise. C'est quelqu'un de précieux, donc, parce que créer une entreprise, ça veut dire qu'il va prendre des risques, il va peut-être embaucher à terme, etc. Et c'est quand même un peu triste qu'il ait pour l'aider que ces bouquins-là, alors que on pourrait parler aussi du portage salarial, qui peut être un début. On peut parler aussi des coopératives d'activité et d'emploi, des choses comme ça. Enfin,
et vous pensez que moi, je veux créer une entreprise, que je vais aller d'abord. Tiens, question avant de revenir. Je m'interromps moi-même. Où c'est qu'on trouve votre livre ? Parce que les livres spécialisés, on est à Toulouse, mais d'autres villes nous écoutent. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Dans des librairies uniquement spécialisées ou absolument partout ? Guy dessus.
Il est partout. Il est à Ombre Blanche ici. Je l'ai vu chez Gibert en regardant mes livres concurrents.
Donc, c'est pas forcément dans une librairie très spécialisée.
Non, absolument pas. Il est vraiment Dunod est diffusé dans toutes les librairies de France. Donc, je pense qu'on le trouve à peu près.
Donc, on va le trouver. Alors, je reviens à ma question puisque je me suis interrompu moi-même grossièrement. Si je veux créer une entreprise, vous pensez que je vais commencer par m'acheter un livre pour lire ça ? Ou alors je vais avoir une démarche un peu plus rationnelle ? Je vais aller voir mon expert comptable ou l'avocat d'affaires qui connaît bien ce sujet ? Disons qu'est-ce qui va se passer, à votre avis ?
J'ai peur d'avoir la réponse. Non, on aimerait bien que les avocats, les experts comptables et tous les conseillers des chambres de commerce de France et de Navarre aient le bouquin sur leur bureau. Par exemple.
Vous pensez que vous allez être lu aussi par des professionnels ? Pourquoi pas d'ailleurs, mais je pense. D'ailleurs, certains peut-être y trouveraient les techniques qui leur manquent. Vous pensez que c'est un livre qui peut aussi s'adresser à un professionnel ? guide dessus.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est que dans ce bouquin, et notamment grâce à Denis, nous insistons sur la vision systémique. Quand je parle de vision systémique, c'est ne pas faire une différence entre le chef d'entreprise, sa famille, ses objectifs de vie et son entreprise. Et donc, ce que nous avons voulu dans ce bouquin, et qui est souvent oublié par les professionnels, que ce soit effectivement, comme disait Denis, les experts comptables et les avocats qui font toujours du très bon boulot, ou les conseils d'entreprise.
Pas tous, mais bon, certains. Voilà, ils s'y efforcent.
La plupart du temps, essaient et font d'ailleurs du bon boulot, les conseils d'entreprise qui sont toujours très honnêtes. Moi, je pense que ce qui est vraiment oublié, c'est la vision systémique des choses. Et d'abord interroger le chef d'entreprise sur ses objectifs de vie.
Si c'est un bon conseil, il va avoir cette vision. Si vous arrivez et qu'il vous fourgue la forme juridique qui lui plaît le plus ou qui va lui rapporter peut-être le plus d'honoraires parce que la plus compliquée à créer, c'est pas du bon boulot. Oui. C'est très personnel, une forme juridique. Non, Denis Vidal.
Juste, Jacques, vous avez souligné un point essentiel. C'est effectivement la forme juridique qui va rapporter le plus en honoraires. Alors, bien entendu, tout le monde
n'est pas comme ça. On ne peut pas penser qu'ils soient tous comme ça. Quelques-uns, peut-être, mais pas tous. Non.
Je suis confus d'avoir pensé cela et je m'en excuse auprès de mes confrères experts comptables et des quelques avocats qui nous écouteraient.
Bon, il y a beaucoup d'avocats qui doivent nous écouter.
Et des nombreux avocats qui nous écoutent. Et bien entendu...
Est-ce que c'est pas poussé si alors s'ils sont des professionnels effectivement ils vont certainement trouver la formation permanente et puis trouver un certain nombre de renseignements pratiques qui leur manquent peut-être, mais si c'est un particulier qui a projet, désir de créer une entreprise, est-ce que ça s'assimile pas un peu à l'automédication, ce genre de choses?
Je fais juste une précision avant de passer la parole à Denis, c'est que, bien entendu, ce bouquet ne remplace ni un avocat ni un expert comptable. C'est un complément.
Il faut
et un expert comptable. C'est important à préciser.
Il faut ménager toutes les susceptibilités, effectivement, mais est-ce que c'est pas un peu pousser les gens à l'automédication? Remarquez, vous me direz, ils vont sur Internet, ils vont trouver à peu près tout ce qu'ils veulent et le contraire de tout ce qu'ils veulent, et c'est peut-être pas tellement ça qu'il leur faut. Ça peut peut-être, et vous allez me dire si j'ai une bonne approche, ça peut peut-être leur permettre d'acquérir une culture générale, de voir quelques directions dans lesquelles ils vont aller, et de poser à leurs conseils qu'ils choisiront les bonnes questions.
C'est ça, je pense que ça peut leur permettre d'avoir déjà...
C'est un dépucelage juridique, si vous me passez l'expression.
En quelque sorte, bravo. Non, ça peut leur permettre effectivement de d'avoir du répondant. C'est-à-dire que lorsque, comme vous l'avez dit, lorsque une personne qui n'y connaît rien arrive devant quelqu'un qui connaît un expert comptable ou un avocat ou un conseil de chambre de commerce, il est démuni complètement, il ne sait pas. Il est prêt à écouter la parole qu'on va lui donner et à faire ce qu'on lui dit de faire, en fait. Et j'espère que le bouquin, on demande au lecteur de s'interroger d'abord sur ses motivations, qu'est-ce qu'il veut, quel est son objectif dans quelques années, comment il voit, par exemple, l'exercice du pouvoir dans l'entreprise. Est-ce qu'il veut être tout seul? Est-ce qu'il veut être avec des associés? Est-ce qu'il veut être dans une collectivité démocratique? Pourquoi pas?
Ça, c'est un peu moins bien vécu, mais bon...
Non, mais...
Certains peuvent y penser.
Oui.
Qu'ils y ont pensé, ils écartent un peu souvent ça. Parce que c'est vrai quand même que dans une entreprise... Il faut un patron un peu, on va pas dire dictatorial, mais c'est quelqu'un qui a priori, qui devrait au moins avoir une vision et qui sait à peu près où il va aller. Ensuite, il va certainement évoluer dans cette vision, mais il peut pas y avoir plusieurs visions. Ouais, ça va pas tirer à dia.
Non, mais justement, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on voudrait que la personne qui va aller plus loin dans la création de son entreprise ait un bagage minimum qui lui permette d'ajuster et de mieux comprendre ce qu'on va lui raconter, hein. Les différents conseils qu'il va pouvoir consulter, il va peut-être mieux comprendre ce qu'on lui raconte et mieux l'adapter à sa propre personnalité.
Et poser peut-être les bonnes questions.
Et poser
comme disait Woody Allen, la réponse est oui, mais rappelez-moi donc la question.
Parce que
ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions. La réponse, on finit toujours par la trouver.
Exactement. Oui.
Et est-ce que... Est-ce qu'une bonne structure, ça, ça ne veut rien dire, une bonne structure? Alors, il y a, vous avez souvent des gens qui vous disent, ah non, non, moi, je ne fais pas une SARL, je ne vais pas faire une SA ou une SAS parce qu'ils ont l'exemple de quelqu'un, un ami ou une relation, on leur a raconté qui s'est planté. La forme juridique, c'est pas une planche à billets, ça n'a rien à voir.
Moi, je compare le lien entre les créateurs, le ou les créateurs d'entreprise avec leur statut, à un couple. Et donc, dans un couple, on sait fort bien que tout n'est pas parfait, il y a des bons et des mauvais côtés. Je pense que là aussi, il ne faut pas rêver, le lien entre le chef d'entreprise et son statut, il n'y aura jamais le statut parfait, comme vous le dites fort bien, et il y aura toujours des bons et des mauvais côtés. Et effectivement, on pèse ses bons et ses mauvais côtés, et comme dans un couple, le jour où le mauvais l'emporte, on change de statut.
Oui, on fait effectivement évoluer.
Voilà, on fait évoluer ou on change complètement
mais
de statut.
Mais pour autant, pour faire évoluer, il faut savoir vers où on va aller, d'où l'intérêt de votre livre qui constitue quand même une culture générale de base que devrait avoir tout entrepreneur.
Oui, je pense que c'est le cas. Enfin, on espère, on voudrait en tout cas que ce soit le cas. C'est vrai que dans toutes les approches qu'on a pu avoir, le questionnement sur la... est un préalable et il n'est pas forcément toujours fait par le porteur de projet, justement. Et donc, on essaie de faire en sorte, on a essayé de faire ce bouquin pour que ce questionnement préalable soit fait, justement.
Vous pensez que les gens vont prendre le temps de le faire? Parce que si vous créez une entreprise, vous partez ex nihilo, vous partez de rien, il faut tout construire, les statuts, le cadre juridique, ça n'est rien, mais après il y a le cadre social qui se recoupe un peu d'ailleurs avec la forme juridique. Mais après, il faut, lorsqu'on crée une entreprise, c'est pour vendre un produit ou un service, c'est là qu'il faut être bon quand même, parce que si vous êtes très bon sur le juridique, mais que vous n'avez pas ce que vous allez vendre, et que vous le vendiez mal, ou que vous avez les mauvais équipements, ou que vous avez le mauvais créneau, il faut tout étudier, tout savoir, et rapidement. Est-ce qu'on ne va pas plutôt privilégier le créateur, privilégier son créneau, son cœur de métier, plutôt que l'intendance, même juridique?
Effectivement, le statut ne va pas faire la réussite de l'entreprise.
Non, donc est-ce qu'on ne va pas le sous-estimer? On dit, bon, on posera la question à l'expert comptable, à l'avocat, ça dépend de la taille qu'on a, le petit artisan, il ne va pas aller voir l'avocat.
C'est fort possible. Et effectivement, c'est aussi un des problèmes de la création d'entreprise, c'est que les entrepreneurs potentiels ne sont pas amenés à s'interroger sur leurs objectifs. Je reviens à ce que disait Denis, c'est important de se poser ces questions préalables ou de se les poser en même temps que l'on est dans le processus de création avec l'avocat ou l'expert comptable.
Parce que souvent, on voit arriver, alors je fais appel à des souvenirs anciens d'une autre vie, mais on voit arriver avec un client qui vient vous voir et qui dit « Je voudrais que vous me constituiez une SAS ou une SARL ou que sais-je ». On leur dit « Oui, oui, pourquoi pas ?» Mais bon, je crois que le bon conseil, alors écoutez, asseyez-vous, on va parler. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où voulez-vous aller? Avec qui êtes-vous? Famille aussi, parce que c'est important. L'âge, etc. C'est autour de ça. C'est du sur-mesure, une structure juridique. Du sur-mesure à un moment donné. Voilà, comme le disait Guy de Sud, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, la forme juridique ne correspondra plus du tout au développement ou au produit.
Bien sûr, si on revient à cet aspect systémique des choses, c'est un système dans lequel il y a le chef d'entreprise, sa famille, ses objectifs et l'entreprise elle-même.
Donc le message, c'est ça. Surtout, ne vous braquez pas sur... Ayez déjà, et c'est très important, et votre livre là va remplir un vide évident, ayez une espèce de culture générale, même dans ce domaine-là, et ne vous confiez pas aveuglément à un professionnel, qui est certainement très bon, c'est pas la question, mais si vous voulez que l'échange soit riche avec votre professionnel, je pense que la lecture préalable du livre, même si on a tout à faire hein, quand on démarre une entreprise, mais c'est quand même essentiel, parce que si on se plante là-dessus, ça ne fera pas la réussite de l'entreprise, ça n'en fera pas la mort non plus. Hein. On ne va pas vous dire « je ne fais pas une SARL » parce qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui avait une SARL qui est mort commercialement, hein, juridiquement. Mais c'est quand même extrêmement important. Alors, toutes ces formes juridiques, donnez-nous quelques exemples parce qu'il y en a une foultitude.
Juste, oui, je pense qu'il est important de préciser que dans le bouquin, nous parlons de certaines formes juridiques, comme l'a dit Denis, qui ne sont pas abordées par les avocats, les experts comptables. Et notamment les couveuses d'entreprise. puisque forcément une couveuse d'entreprise, c'est quelqu'un qui rentre dans une couveuse d'entreprise qui va être accompagné par des conseillers qui sont internes à cette couveuse, ne va pas aller voir un avocat ou ne va pas aller voir un expert comptable. Donc je pense qu'il est important aussi, Denis parlait du portage salarial, de parler de ces formes d'exercice d'une activité entrepreneuriale.
Donc ça veut dire, alors je vous rappelle quand même que votre sous-titre c'est le petit guide exhaustif, donc oui. Il doit tout y avoir dedans. Et donc des formes dont vous parliez qui sont assez peu usitées, et donc peut-être un certain nombre de conseils, par habitude ou par simplicité, ne vont pas exposer à leurs clients, ne vont pas proposer à leurs clients.
Parce que ce n'est pas leur métier, parce qu'effectivement, si je prends l'option de monter ma petite entreprise dans le cadre d'une couveuse d'entreprise, je ne vais pas aller voir un expert comptable, ni un avocat.
Est-ce que justement, c'est tous ces conseillers-là qui naviguent, dont on ne sait pas trop, qui ne sont pas les payeurs, comme le veut l'expression, qui naviguent autour des chambres de commerce, autour de ces pépinières, qui sont pour un certain nombre en exercice illégal, quand même, il faut le savoir, de la profession d'expert comptable et d'avocat, hein. Est-ce que c'est bien sérieux de s'adresser à ces gens-là ? C'est pas que je veuille absolument défendre le précaré des professions réglementées. Mais enfin, on a déjà quand même, lorsqu'on va voir un professionnel qui a un titre reconnu, il y a déjà quand même un présupposé de qualité technique, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs.
J'ai un peu de mal à répondre à cette question. Alors effectivement, si on regarde les organismes de conseil comme BGE, par exemple, les boutiques de gestion, je trouve que ce sont des structures qui font du travail de très bonne qualité. Et j'ai rarement trouvé des dossiers qui sont arrivés dans mes mains après être passés par BGE, qui étaient traités avec légèreté ou...
Dont la publicité est gratuite, la Guide de Sud, c'est ça.
Ou manque de qualité. Et je pense que c'est pareil pour les conseillers des chambres des métiers, par exemple. Moi, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. N'est qu'effectivement, ils sont peut-être fermés sur un certain nombre de statuts. Et sur
l'intérêt qu'il se procure rapidement votre livre, c'est ça ?
Oui.
Vous allez conclure.
Je pense que c'est pas eux de le faire. C'est vraiment aux chefs d'entreprise potentiels à se prendre en main.
Donc, vous l'avez écrit plus tôt pour le chef d'entreprise qui va créer.
Voilà,
et là, on ne parle que de jeunes entreprises ou d'entreprises en création. Alors, parce que si on est sur des entreprises déjà un peu étoffées, mais qui vont peut-être devoir, on l'a dit, évoluer pour X raisons, ils auront peut-être aussi intérêt à lire ce livre.
Je pense que ce livre peut effectivement... Alors, je finis juste avec les conseillers, parce que moi, je suis quand même... Je défends le travail des conseillers. Je trouve qu'ils font toujours globalement du bon boulot et avec beaucoup de conscience. Par contre, pour revenir au bouquin, oui, je pense qu'il peut intéresser des chefs d'entreprise déjà en activité, parce que, de manière très simple, nous donnons les avantages et les inconvénients de chaque statut. Un statut comme la SAS, par exemple, que l'on assimile souvent à une grosse entreprise qui est confondue avec la société anonyme.
Au départ, je vous rappelle quand même que les SAS, elles ont été créées dans le but de permettre à des grosses entreprises de s'associer entre elles.
Bien.
Après, les experts comptables ont trouvé ça très bien, surtout parce qu'il y a des avantages, je crois, mais je parle sous votre contrôle, des avantages sociaux intéressants. Donc, on a quand même détourné cette forme juridique de son objet premier.
Complètement, et de manière tout à fait légale, la SAS est devenue la structure souvent de très petites entreprises
alors que t'es faite pour des très grosses.
C'est la structure idéale pour un retraité qui monte une activité.
Un retraité, il joue de sa retraite, c'est fini.
Pour un intermittent du spectacle qui monte une activité à côté de son intermittence. Donc, c'est vraiment le statut idéal pour
ça
la pluriactivité.
Pour la couverture sociale, pour les avantages induits par la couverture sociale.
Non, parce que le retraité ou l'intermittent du spectacle a déjà sa couverture sociale, ou le pluriactif a souvent déjà une couverture sociale. La SAS, justement, ça peut être dans certains cas une machine à cash, c'est-à-dire je monte mon activité à côté de ma retraite, je ne suis pas salarié de ma SAS, et par contre je distribue des dividendes en fin d'exercice. Je le rappelle, alors sans être trop technique, les dividendes, ce sont des revenus mobiliers, ce ne sont pas des revenus du travail. Donc un intermittent du spectacle, par exemple, qui va toucher des dividendes, n'aura pas des revenus du travail et ça n'impactera pas son indemnité versée par Pôle emploi.
Je ne sais pas, c'est beaucoup d'intermittents du spectacle qui montent des SAS. Peut-être vous qui êtes quand même un grand spécialiste du monde de la culture.
Oui, j'ai beaucoup justement d'intermittents qui se prépare avec les peut-être les prochaines présidentielles, malheureusement, à la suppression ou à une restriction de ce régime de l'intermittence.
On verra ce que dira Madame Dati. Peut-être qu'on n'attendra même pas les prochaines présidentielles.
Peut-être. Je ne prendrai pas position là-dessus, mais malheureusement, j'ai bien peur qu'il y ait certains candidates ou candidats, respectons la parité, qui aux prochaines présidentielles aient la culture en point de mire. Parce que la culture, c'est quand même réfléchir, c'est quand même développer le sens critique. Donc, je suis plutôt pessimiste sur l'avenir de la culture.
Ben, surtout si elle est aux mains des politiques qui n'ont pour la plupart aucune culture. Et je vous renvoie là-dessus à l'excellent livre de Serge Rogourt, qui connaît bien le monde de la culture, SOS Culture, aux éditions indigènes, qui sont aussi d'excellentes éditions, et vous verrez ce que ce grand professionnel de la culture, universitaire par ailleurs, et même d'ailleurs président de la commission culture de notre belle région, ça veut dire qu'il est élu à la région et qu'il connaît très bien le problème de l'intérieur, pense du niveau culturel de ses petits camarades politiciens.
Et donc c'est pour ça aussi que les intermittents prennent leurs précautions et de plus en plus montent des structures sous forme de SAS pour essayer d'avoir un parachute avec des activités qui sont différentes de celles de la pratique artistique.
Donc voilà une perspective intéressante que l'on ne connaît pas a priori. Allez, Denis Vidal, faites-nous rêver avec une autre structure juridique un peu méconnue et qui devrait être un peu plus développée peut-être.
C'est une structure juridique extrêmement méconnue du monde du business, mais pourtant très très pratique, c'est la Association 901. L'Association 901 est complètement absente de l'ensemble des enseignements sur le business. Or, c'est une structure qui est facile à créer, pas chère, et qui permet d'avoir une personne morale, d'avoir un compte bancaire et de commencer une activité.
Oui, mais vous ne faites pas une création patrimoniale là-dessus. Beaucoup de chefs d'entreprise créent un fonds de commerce, une activité, des parts sociales, des actions pour pouvoir les revendre un jour. Alors que si vous êtes dans une association en 1901, a priori, vous n'allez pas la revendre.
Vous avez complètement raison. Je parle de l'association 901 pour tester. C'est-à-dire que lorsque vous avez un projet, vous n'êtes pas forcément convaincu.
Un galop d'essai, alors.
Oui, exactement.
Mais et si vous réussissez, qu'est-ce que vous en faites?
Vous la mettez de côté et vous faites une structure commerciale normale.
Qui reprend les mêmes choses.
Exactement.
Donc, ce qui s'appelle une mutation occulte de fonds de commerce et le fisc vous tombe dessus.
Non, si c'est fait rapidement.
Oui, vous êtes un peu borderline, là, quand même, non?
Alors, de toute façon, il faut par moment être un peu borderline, mais je pense aussi que on peut utiliser l'association 1901, je reviens à la culture, les structures de production musicale, par exemple, c'est le statut le plus adapté parce que, alors effectivement, on n'a pas une gestion commerciale et sociale qui soit optimale en la matière, mais c'est le statut qui plaît aux financeurs, c'est le statut qui plaît aux programmateurs.
Qui plaît aux financeurs publics, collectivités locales, État essentiellement, parce que si vous êtes sous forme de société de capitaux, ça ne plaît pas beaucoup, la subvention ne tombe pas.
Bien entendu, bien entendu. Oui, et on sait que dans ce type de structure, alors effectivement, sauf si on s'appelle Indochine ou Chaka Ponk ou Mylène Farmer, on sait que dans ce type de structure, il va y avoir, c'est quasiment impossible de constituer le fonds de commerce dont vous parliez. Et donc, ce type de structure, là, on n'est pas dans un galop d'essai. On est vraiment sur des structures pérennes et qui peuvent permettre d'accompagner des artistes sur le long terme.
Alors, toutes ces structures, on va renvoyer à votre livre parce qu'on ne va pas toutes les examiner, mais ça ne vous semble pas un maquis colossal? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué tout ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier? C'est vrai que c'est un parcours du combattant de créer une entreprise avec sa structure juridique, avec toutes les formalités qu'il faut faire. C'est extrêmement complexe. Vous avez dans d'autres pays, notamment les anglo-saxons, je ne parle même pas des États-Unis, où ça va beaucoup plus vite.
Mais que vont faire nos pauvres technocrates si on simplifie les choses?
Effectivement, oui. Il y avait un président qui avait parlé de simplification administrative. Je ne sais même pas si c'est pas le nôtre d'ailleurs actuellement, mais il parle tellement, il fait tellement peu qu'on finit par ne plus savoir où on en est.
Je ne l'ai plus trop suivi. Oui.
Mais oui, on est beaucoup qui avons décroché depuis longtemps. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus claires, beaucoup plus abordables.
Alors, je ne le souhaite pas parce que chaque fois...
Les professionnels, oui, plus c'est obscur, meilleur c'est. Ça,
alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que chaque fois que j'entends le mot simplification, on sait qu'on va vers une complexification dans l'exercice de notre activité.
Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de structures qui sont quand même des gadgets juridiques? On est dans une époque de gadgets depuis très très longtemps. Gadgets techniques, on en a partout. Aujourd'hui, on crée beaucoup de choses qui ne servent à rien, dont on aurait très bien pu se passer, mais il faut alimenter la machine. Est-ce qu'en matière juridique, ce n'est pas pareil? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gadgets juridiques? Denis Vidal.
Non, je pense qu'il y a surtout une énorme diversité de projets et de possibilités. Et personnellement, je me réjouis plutôt qu'il y ait tellement de réponses possibles. Par exemple, bon, il se trouve que j'habite dans le monde rural depuis maintenant 40 ans et j'ai été frappé par l'abondance, par exemple, de choses comme des coopératives d'activité et d'emploi qui sont une réponse à la création d'entreprises. Et je vais faire mes courses à Saint-Antoine-de-Nobleval où il y a une librairie qui s'appelle le Tracteur Savant.
Ah, et nous connaissons bien les dames du Tracteur Savant. Voilà. Oui, ben, oui, très bien.
Le Tracteur Savant, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Enfin, font partie, ils ont créé leur structure et elles sont ravies d'être dans cette structure-là. Vous voyez, donc... Alors, et la CAE, pourtant, c'est quelque chose de complètement marginal. Un peu comme la SCOP, évidemment. Mais il se trouve que je suis de cœur florentin, Gers, de Florence.
Bon, pas de Florence, Italie, alors.
Non, de Florence, Gers. Et à Florence, Gers, par exemple, il y a... qui est une ville qui a été sinistrée parce que c'était la ville ouvrière du Gers... Donc, a été sinistré par la fuite de toutes les industries vers d'autres lieux plus cléments sur le plan fiscal ou des coûts personnels. S'est installée une coopérative, enfin une SCOP, qui s'appelle Éthicable, qui s'occupe de vendre des produits en commerce équitable à la grande distribution. Donc, des produits alimentaires, des cafés, des choses comme ça. Et il y a 200 personnes aujourd'hui qui travaillent pour Éthicable à Florence. Donc, je me dis, voilà, ces gens-là, ils avaient... Dans leur projet, c'est un truc qui a 20 ans, ça a été créé dans les années 2000. Dans leur projet, ils avaient ce souci de faire quelque chose qui soit démocratique, où ils puissent être mis en cause, etc.
Alors, la SCOP mériterait elle seule, et d'ailleurs je l'ai fait il y a plusieurs années, j'ai reçu des patrons de SCOP, des créateurs de SCOP mériterait elle seule une très large émission, parce que c'est une forme juridique, vous avez prononcé le mot, qui est à la base de démocratie.
Oui.
Et la démocratie, c'est toujours quelque chose de très délicat. Je renvoie d'ailleurs au numéro du 1 que j'ai sous les yeux, SOS Démocratie, ça vous donnera l'excellent magazine qu'est le 1. C'est en une complexité supplémentaire pour faire vivre cette démocratie.
Oui, bien sûr, mais ça existe. Disons que c'est...
Il y a des très grandes...
SCOP.
SCOP, hein, oui. Très connues. Certaines en grande difficulté aussi, parce que il faut faire vivre un groupe humain et ça vient se rajouter. C'est plus facile peut-être d'avoir un pouvoir qui est très, très vertical, qui tombe plutôt qu'un pouvoir horizontal dans l'entreprise.
Disons qu'avec Guy, d'ailleurs, nous avons, au départ, nous étions un peu interrogatifs par rapport à la SCOP, effectivement, du fait de cette complexité supplémentaire, du fait aussi que le côté démocratique ne nous prive pas d'avoir des tyrans.
Ah oui, tout à fait. on pourrait en citer moult exemples.
Bon. Et on peut très bien avoir un côté où tout le monde reçoit pas mal d'argent dans une entreprise classique, je dirais. Ça dépend complètement de la personnalité et de ce que veut faire le chef d'entreprise. Hein. Mais bon, il se trouve que la SCOP existe. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça correspond en plus à une aspiration des jeunes actuellement. Le côté, justement... horizontal en quelque sorte, hein. Le côté circulaire, quoi. Donc c'est pour ça que nous l'avons mentionné, d'autant plus que c'est complètement ignoré par là aussi la plupart des bouquins sur la création d'entreprise.
Ce qui est fort dommage. On fait une pause musicale. La seconde, c'est vous qui l'avez choisie, Guy de Sud. Qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors, je vous propose une version électro, puisque je suis un grand amateur d'électro, et donc c'est une version du Secanto, version électro du Secanto, par un duo toulousain, un duo électropop toulousain, qui s'appelle 13.
Et que vous connaissez bien, je crois.
Et que je connais bien, puisque, effectivement...
Vous allez être le géniteur.
Voilà, ouais. Ce sont mes deux fils qui ont monté ce duo.
On les écoute.
Secanto, que canté. C'est comme...
Nous venons d'entendre une version un peu new look du Sé Canto, mais personnellement, elle me séduit parfaitement. Donc, on rappelle, c'est le groupe 13, et vous pouvez aller sur, j'imagine, sur YouTube ou autre, écouter ce qu'ils réalisent, puisqu'ils n'ont pas que cette musique
sur
à leur
actif. Sur toutes les plateformes, je vous conseille notamment Minuit 30 de 13.
Bon, eh bien, nous le passerons. Alors, on revient à votre livre, à tous les deux, Guy de Sud et Nividal, hein, l'expert comptable et l'homme d'HEC, entrepreneur, choisissez le bon statut. Alors, ce livre que vous avez écrit à quatre mains et que vous avez... Comment vous l'avez bâti? Parce qu'il y a plusieurs chapitres. D'abord, ce n'est pas un gros livre. C'est très aéré. Hein, c'est pas une somme universitaire qui pourrait être rebutante. Non, rien qu'au niveau de la présentation et de l'impression, on n'a pas l'impression de se noyer, sans jeu de mots. Chaque note est un pas, chaque pas est une note, c'est de Nicolas Sirkis. C'est le premier chapitre, créez votre activité, pourquoi faire? Donc, comment vous l'avez bâti? Il y a des exemples pratiques, il y a des retours d'expérience?
Oui, en effet, il y a d'abord une trentaine de pages sur les motivations, justement. Le questionnement qu'on souhaiterait induire chez le porteur de projet, le créateur d'entreprise. Et ensuite, donc, il y a les réponses possibles, pas beaucoup de pages, un texte aéré qui essaye d'être compréhensible. Et on a ensuite mis des exemples, effectivement, de gens tout à fait simples. Pourquoi le charpentier de cordes sur ciel, par exemple, a pris le statut de micro-entreprise quasiment en courant lorsqu'il a appris que c'était créé par rapport au statut d'entreprise individuelle qu'il avait avant, voyez-vous. Pourquoi une libraire itinérante qui était en structure business est devenue association 1901. Oui, des choses comme ça, des choses qui sont sur des... Alors, effectivement, nous sommes plutôt sur le petit projet.
Oui, on n'est pas sur... oui, c'est pas Total dont on parlait tout à l'heure, ou Vufut, ou l'aérospatial, ça on comprend bien. Oui. Donc c'est vraiment celui qui va se lancer.
Voilà, exactement. Et je pense que c'est eux qui ont le plus besoin de ce genre de bouquin. C'est-à-dire le projet de quelqu'un qui dit, voilà, j'en ai marre, j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, mais je ne sais pas, parce que je n'ai pas aucune formation dans ce domaine. Et je pense que lire ce livre... alors, bon, c'est, ça sera quand même du travail de lire ce livre, le permettrait d'être beaucoup mieux armé pour aller plus avant dans son projet, justement.
Oui, puis pour discuter avec un professionnel qui va l'accompagner, pas dire d'égal à égal, mais quand même qu'il y ait un véritable échange et que la science ne tombe pas d'en haut, si je puis dire. C'est ça, Guy Dessus.
Oui, je pense qu'il est important de préciser que nous avons voulu aller à l'essentiel. L'objectif, c'était pas d'indiquer comment se calcule la fiscalité sur les dividendes, par exemple. Il y a de très bons bouquins sur la SARL, par exemple, qui rentrent dans le détail. Mais le créateur potentiel va vite se perdre dans ces bouquins. Nous avons voulu lui donner les informations essentielles et avec les quelques avantages et inconvénients de chacun de ces statuts.
Donc c'est un livre extrêmement didactique, extrêmement clair, qui peut être lu par tout le monde, et qui doit être lu en tout cas au moins par celui qui va créer.
Nous espérons, en tout cas, c'est l'objectif.
Mais c'est pas, encore une fois, un gros livre, et la présentation est très attractive avec beaucoup d'exemples pratiques. On ne noie pas les gens sous un flot de considérations juridiques, sociales ou fiscales.
Alors c'est un peu le problème, on revenait tout à l'heure au lien, à la relation avec l'expert comptable et l'avocat, c'est un peu le problème, c'est que parfois face à ces professionnels, les créateurs potentiels qui n'ont pas une grande culture juridique sont parfois un peu noyés sous le flot d'informations. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut qu'il y ait un minimum de culture de base.
Et donc il faut reprendre la formule de Borges que vous avez mise... dans votre livre, dans les remerciements, le comédien expérimenté n'entre pas en scène avant la construction du théâtre, ce qui semble bien illustrer ce que vous avez voulu faire, à savoir un minimum de culture générale, les idées claires, et après on peut construire.
Exactement.
Bien résumé. C'est ça. Mais bien, écoutez, merci à tous les deux d'avoir pris un peu de temps pour venir vous présenter ce livre, donc, qui est déjà en librairie. On le trouve...
depuis une semaine.
Une semaine. Donc, voilà. Je rappelle le titre « Entrepreneur, choisissez le bon statut, guide exhaustif de tous les statuts juridiques. » Chez Duneau, si vous voulez créer, si vous venez de créer, si vous vous posez la question de savoir s'il ne serait pas bon d'évoluer dans votre statut parce que vous sentez que ça coince peut-être aux entournures, eh bien, le livre de Guy Dessus et de Nivier Vidal vous permettra de tout comprendre et d'aller parler avec votre expert comptable ou votre avocat si vous en avez un, et d'avoir un échange fructueux et peut-être de trouver un instant T la bonne structure, sachant qu'elle ne restera pas bonne éternellement, mais justement le livre vous permettra d'envisager aussi l'avenir, ce qui est important.
Exactement.
Merci Guy Dessus,
merci Jacques,
Denis
merci
Vidal.
À vous.
C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec la technique Léo Touroult, avec sa maestria habituelle, hein, qui manie tous les boutons. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.